Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans les ateliers radiophoniques. Vous allez entendre aujourd'hui le premier volet de l'émission du musée au micro, réalisé avec une classe de 5e du collège Labinckenet de Rennes, le musée des Beaux-Arts de Rennes, l'Accorlab, coordination des radios associatives de Bretagne, et financé par la DRAC. Le second volet de cette émission sera diffusé le 29 juin prochain.
Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est la classe de 5e 1 du collège Labinckenet à Rennes qui vous présente son projet radio du musée au micro.
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Rennes,
la Corlab et Canal B.
Ce projet a été financé par la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Que nous remercions.
L'idée de ce projet était de découvrir un musée, ses œuvres et les gens qui y travaillent.
Vous entendrez donc dans cette émission 6 interviews autour des métiers du musée.
Mais aussi des extraits de nos visites pendant lesquelles on a comparé des tableaux et fait des jeux.
Nous sommes allés à Maurepas, plus précisément à la station de métro Groschenes.
Pour voir le chantier de l'annexe du musée des Beaux-Arts qui ouvrira en fin d'année.
Là-bas, on a vu des œuvres d'art dans la rue.
Des affiches réalisées à partir de photos en noir et en blanc de détails de tableaux.
Nous avons aussi visité Canal B avec Morgane et Léonard et découvert avec eux l'univers radiophonique et de la presse.
Un grand merci à nos enseignants, mesdames Viola Espinas et Payard.
Et monsieur Anzenberg de nous avoir accompagnés pendant tout le projet.
Et un big up spécial à Marion Charlemagne du musée des Beaux-Arts de Rennes.
Bonne écoute !
Alors on va pouvoir continuer, mais pour faire des besoins, vous m'écoutez. Venez s'il vous plaît. Profitez de vos questions. Donc on va vous donner les groupes et après vous suivez selon la personne qu'on vous indiquera, ok?
Du coup, conservateur, il faut qu'il y ait Yannick, Camille, Nora. Et ils vont aller avec eux, le groupe 2, Mohamed Ali, Ethan, Ala, El Tafi, Ferhat. Et Kenzo, Nila, Del, Mona. Et ton groupe, vous pouvez aller faire conservateur. C'est Idriss, il est où?
Oh, Idriss.
Et bah du coup, je vous laisse vous lever aussi.
Il va prendre la pochette, maintenant.
Nous vous proposons de commencer avec l'interview de Marion Charlemagne, médiatrice au musée.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, je m'appelle Marion Charlemagne, je suis médiatrice culturelle au musée des Beaux-Arts de Rennes.
En quoi consiste votre travail, votre mission quotidienne en gros ?
Alors mon travail c'est de concevoir et de faire des visites devant différents types de publics et aussi de construire des outils comme des livrets ou des petits jeux.
Qu'avez-vous fait comme étude pour faire ce métier ?
Alors j'ai fait une licence en histoire, mais on peut aussi faire en histoire de l'art. Et après j'ai fait un master en médiation de l'histoire.
Du coup, quelles qualités il faut pour faire ce métier ?
Alors il faut une très bonne mémoire, parce que du coup on doit parler devant des publics pendant plusieurs heures et on n'a pas de feuilles. Il faut être curieux aussi, parce qu'il faut tout le temps apprendre des nouvelles choses. Et puis il faut quand même pas être trop timide, aimer en tout cas parler devant des groupes assez importants.
Depuis combien de temps travaillez-vous au musée des Beaux-Arts à Rennes ?
Ça va faire à peu près 3 ans que je travaille ici.
Est-ce que vous avez eu d'autres métiers à part médiatrice ?
D'autres métiers ? Alors j'ai fait des visites. Avant j'ai travaillé aussi dans un office de tourisme, donc j'ai accueilli les personnes, je leur présentais les lieux. Donc à chaque fois en fait selon les lieux c'est un petit peu différent. Être médiatrice au musée c'est pas la même chose qu'être médiatrice dans un château ou dans un monument. À chaque fois c'est différent.
Est-ce que vous avez une anecdote rigolote par rapport à votre métier ?
Rigolote, je sais pas. Des anecdotes, je peux en avoir.
Alors, une anecdote qui m'a marquée.
Alors, c'est une fois, j'avais une visite. On m'avait pas du tout prévenu, donc je l'ai découvert vraiment au moment où j'ai accueilli le groupe. J'ai découvert qu'en fait, aucune personne ne parlait français et ne comprenait le français. Et qu'en fait, il y avait un traducteur. Et que je devais donc parler en découpant mes phrases pour que lui puisse les traduire. J'avais jamais fait ça, donc j'étais pas préparée. Donc j'ai dû improviser en montrant au groupe que tout allait bien, que c'était prévu, que je maîtrisais mon sujet. C'était très stressant, mais du coup maintenant je suis capable de le faire.
C'était une nouvelle expérience pour vous.
C'est ça. En fait, être médiatrice, c'est toujours différent. Parce que même si, on, par exemple, j'ai une visite avec des CP, bah les CP, c'est jamais les mêmes. Les élèves sont toujours différents. Donc, en fait, ils vont jamais avoir les mêmes connaissances, les mêmes envies. Donc, à chaque fois, c'est différent.
Si une nouvelle personne prenait votre poste, quel conseil lui donneriez-vous ?
De travailler sa mémoire et d'être très curieux. Parce que être médiateur, c'est pas juste connaître des choses et rester là. C'est toujours essayer d'en apprendre plus pour mieux expliquer aux autres.
Je remarquais que dans le monde de l'art, il faut vraiment être curieux. Même la personne avant vous disait la même chose.
Oui, bah oui, parce qu'en fait, les œuvres d'art des artistes, il y en a beaucoup. On fait tout le temps des nouvelles découvertes sur eux, sur les œuvres. Et bah, pour chaque exposition, on est tout le temps avec des nouvelles informations. On doit toujours apprendre.
Quelle est la chose que vous aimez le plus faire dans ce métier ?
En fait, c'est que mes journées ne sont jamais les mêmes. Les visites, donc quand je suis en visite avec des publics, bah, les publics sont tous différents et spécifiques à chaque fois. Et puis même, je dois toujours essayer d'être créative parce que le musée doit être en adéquation avec l'époque. Les goûts changent, les modes changent. Donc nous, nos livrets doivent évoluer, les jeux qu'on propose aussi. Donc en fait, je dois toujours essayer d'inventer des nouvelles choses.
Quel jeu proposez-vous ?
Alors, en jeu, par exemple, on fait un jeu de piste au musée. On dit, alors ça, c'est pour les élèves à partir de 5 ans à peu près. On a une série de petites énigmes à résoudre dans les salles. Et en fait, on leur dit qu'un tableau a disparu. Et chaque énigme va leur donner un indice. Et à la fin, ils vont avoir une carte qui leur indique où est l'œuvre. Et donc, ils vont pouvoir aller la retrouver. Donc, on essaye aussi de, par exemple, on fait des jeux que vous connaissez. On a fait un jeu des 7 familles. Mais avec les tableaux du musée, vous apprenez des choses sur les tableaux. C'est aussi des choses que vous connaissez et que vous aimez déjà bien. Et moi, j'en ai une. Est-ce que vous comprenez bien ce que c'est médiateur ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Je vais vous demander ça.
Ah oui, moi, vous voyez, je dis médiatrice culturelle. Parce que médiateur, en fait, c'est très, très large. Donc, il y a, par exemple, médiateur social, quand on parle de conflit. Et puis moi, du coup, en fait, c'est toujours l'idée est la même. C'est il y a deux côtés. Et moi, je suis au milieu. Donc, par exemple, quand il y a un conflit, ça peut être deux personnes ou ça peut être une entreprise, une personne. Et ben moi, ça va être les publics et les œuvres. Et mon rôle, c'est de mettre les deux en relation et que ça se passe bien. Donc, par exemple, les œuvres, je vais essayer d'apprendre des choses sur elles et de le simplifier. Et les publics, je vais en apprendre aussi des choses sur eux pour savoir comment je peux leur expliquer les choses.
Plus facilement.
C'est ça. Et une fois que je fais bien mon travail, normalement, la connexion se fait et j'ai même pas besoin d'être là après. Normalement, après, les gens arrivent à s'approprier les œuvres tout seul. Vous aimeriez bien vous faire un métier comme ça ?
Non, moi j'ai déjà un autre métier en tête.
Ah, c'est quoi ton métier en tête ?
C'est programmeur en aéronautique.
Ah oui, non, c'est totalement différent là.
C'est pas un métier, mais un truc que j'aime bien.
La boxe. Ouais. Ah. Moi j'aimerais devenir sage-femme.
C'est bien aussi.
Tellement beau sur quoi ?
Moi j'aimerais bien être médecin généraliste.
Ah oui, vous avez des beaux projets. Hein. Après, moi, vous savez, je ne savais pas que ça existait au début. Donc après, c'est aussi en avançant que j'ai découvert, parce que ce n'est pas un métier très connu, médiatrice. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler.
J'ai déjà entendu, ouais. Mais je ne savais pas ce que c'était.
Souvent, on connaît plus guide.
Oui.
Guide, ça, voilà. C'est très connu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la même chose. Les guides, ils font des visites. Eux, ils font que des visites. Alors que médiateur, nous, on a un côté créatif en plus. C'est qu'on peut créer tous ces outils-là. Ça peut être des livrets, des jeux, donc on a aussi ce côté-là qui est un peu plus important. C'était clair ?
C'est bon, c'est bon.
Ouais. Et ben en tout cas, vous avez bien bossé vos questions, hein, je vois.
Oui, après ça, c'est sur internet pour rien.
Ah non, vous êtes prêts, vous allez pouvoir faire des micro-trottoirs et tout. Ouais. Oui. Content.
Ça ne me dérange pas, vous gagnez combien par mois ?
Je gagne combien par mois ? Non, mais c'est une bonne question, ça ne me dérange pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans un musée, c'est public. Donc, en fait, je suis fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est l'État qui me paye. Donc, en fait, je ne vais pas gagner la même chose que quelqu'un qui est dans le privé. Ça peut un peu varier. Moi, environ par mois, je gagne entre 1 800 et 2 000 euros par mois. Il y a un petit désavantage, c'est que je travaille les week-ends et je peux travailler en soirée.
Oh, j'ai des.
Ah oui, par exemple, cette année, je travaillais le jour de l'an. L'année dernière, je travaillais le jour de Noël. Enfin,
vous n'avez pas de vacances ?
Alors j'ai des vacances ici, mais c'est qu'en fait moi je fais pas des horaires, ça va pas être 9h-17h tous les jours. Parfois bah, il peut y avoir des visites en soirée, des événements ou des vernissages, donc on peut me demander de rester jusqu'à 21h. Le week-end, bah, je travaille le samedi et le dimanche, pas tous les week-ends, mais un week-end sur trois je travaille. Donc il y a aussi des contraintes.
Ça vous fatigue pas tout ça ?
Alors médiateur c'est quand même un métier assez sportif parce que tous les jours on marche. Et puis bah bon, avec les groupes, hein, mes 10 000 pas par jour je les fais facilement. Hein. Et puis moi quand je marche, en fait, vous quand vous faites des visites, vous suivez. Mais moi je dois marcher, parler, donc je dois aussi ne pas perdre mon souffle.
Je pense qu'on n'a plus d'autres questions.
Oui. Mais être médiateur, avoir un poste comme ça, fonctionnaire, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a peu de postes. Donc, il y a des situations un peu plus précaires, difficiles, où on peut être dans une association. Donc là, on gagne moins bien sa vie et puis on peut être amené à faire d'autres choses parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, on peut nous demander de faire d'autres missions qui ne sont pas celles de la médiation normalement.
Mais j'ai une question avant. Est-ce que, avant d'être médiatrice, est-ce que vous avez déjà songé à faire un autre métier ?
Alors moi, au tout début, je voulais être professeure d'histoire. Un moment. Ouais, je voulais être professeure d'histoire. Et puis au fur et à mesure, bah, en fait, je me suis dit que j'aimais beaucoup, enfin que j'aimais bien être dans des lieux comme les musées, comme les monuments. Et du coup, bah, je voulais pas être dans un collège ou un lycée. Donc du coup, j'ai décidé. Mais c'est un peu à peu près la même chose. Je vois beaucoup d'élèves et je dois leur parler et leur faire apprendre des choses. Donc au final, j'ai pas trop changé la base. C'est bon pour vous ? Et bah, il vous manque quoi comme métier ?
Beaucoup, hein.
Ouais, il en manque
pas. Agent d'accueil.
Et bah, j'ai ma collègue qui vous attend à l'entrée.
Bah, on y va. C'est parti.
Bonne journée.
Bonjour. Bon, on se revoit tout à l'heure.
Pas guéri.
Au revoir. Je vais pas mal. Merci.
Ah bah, avec plaisir, hein.
C'était l'interview de Marion Charlemagne.
Je vous souhaite la bienvenue à tous au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc on s'est vu plusieurs fois, mais c'est la première fois que vous venez ici. Alors pour vous dire un petit peu le programme du jour, donc là on va faire un petit récap un petit peu de tout ce qu'on s'était dit sur le musée la première fois qu'on s'était vu. Après on va déambuler un petit peu dans différents espaces, on va parler un peu de l'histoire du musée, pourquoi il est né, comment il est né. Et après je vous proposerai de découvrir quelques œuvres, un peu les chefs-d'œuvre du musée. Et après on pourra faire un bilan tous ensemble de la visite.
Comme la choucroute, mais de Musée des Beaux-Arts.
Est-ce que quelqu'un se souvient ce que c'est cette
œuvre ? Oui, c'était le nouveau-né.
Le nouveau-né ? Est-ce que vous vous souvenez de l'artiste ou pas ?
C'était comment ? La naissance de Jésus.
Alors, non, c'est Georges de la Tour. Ouais, on va la voir ensemble aujourd'hui, celle-ci, donc vous allez la voir en vrai. Et donc, il y a l'œuvre la plus célèbre. Et vous vous souvenez, on a dit quoi d'autre dans le musée, par exemple ? Qu'est-ce qu'on voit comme... Qu'est-ce qu'on trouve dans un musée ?
Et des objets anciens.
Des objets anciens, ouais.
Des
sculptures. Des tableaux.
Des photos.
Alors, il peut y avoir des photos. Là, actuellement, on n'en a pas, mais il peut y avoir des photos. Il peut y avoir aussi des dessins. Nous, encore là, on n'en a pas d'exposé, mais il peut y en avoir. Aujourd'hui, ensemble, on va surtout voir des objets, des peintures. On va pas trop voir de sculptures, on va en voir une seule.
Il y a des momies aussi.
Il y a des momies, ça fait partie, oui, des objets aussi. Et le musée, du coup, quelles sont ses missions ? Ça sert à quoi, un musée ?
Bah, à montrer.
À instruire, oui, aussi. Alors, on dit pas vraiment instruire, on va dire aussi peut-être diffuser des connaissances. Oui, on a une réserve, c'est vrai. On les change aussi. Et puis, tu as dit, on les protège. En fait, le but du musée aussi, c'est de faire attention à ce que ces tableaux, ces objets, ces sculptures, bah, elles durent dans le temps, qu'elles ne s'abîment pas, que bah, dans plusieurs siècles, on puisse encore les voir. Donc le but du musée, en fait, on peut dire qu'il a quatre missions, le musée. Il doit conserver, exposer, animer, donc diffuser et étudier. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs de ce qu'on s'était dit sur le musée ou pas ? Est-ce que vous connaissez peut-être les règles ici au musée ? Je pense que c'est bien qu'on les revoie ensemble. Ouais.
Il ne faut pas avoir de stylo bille.
Ah oui, est-ce que vous savez pourquoi il ne faut pas avoir de stylo bille au musée ?
Ouais. Et aussi, pour pas que ça fasse une tache d'encre.
Alors oui, c'est vrai. En fait, l'encre, c'est beaucoup plus dangereux que juste du crayon à papier. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, les feutres, tout ce qui est un peu, on va dire, indélébile, beaucoup plus difficile à enlever, bah, c'est interdit. Il y a des gens qui peuvent venir, par exemple, faire de la peinture au musée, mais ils ont besoin d'une autorisation. Mais ça peut arriver. Et puis, quoi d'autre comme règle, à votre avis ? Ouais.
Ne pas toucher les œuvres.
Oui, ne pas toucher les œuvres, ça, en fait, ça va avec une des missions du musée, donc c'est conserver. En fait, on ne peut pas toucher les œuvres parce que sinon ça les abîme, ça les détériore, ça peut les faire tomber aussi. Donc au musée, il y a des personnes qui peuvent toucher les œuvres, mais ils ont des gants et ils ont le savoir, la connaissance des tableaux pour ne pas les abîmer. Puis aussi, on est assez nombreux aujourd'hui. Et à l'étage, vous allez voir, il y a des visiteurs. En fait, le musée, c'est un lieu, souvent, les gens aiment bien y aller tranquillement pour observer des œuvres dans le calme. Donc si on est bruyant, en fait, ça va les déranger. Et puis même nous, en fait, vous voyez, si vous parlez tous en même temps, vous ne pouvez pas m'écouter, vous ne pouvez pas vous écouter entre vous. Et du coup, on perd un petit peu le sens de la visite. Et à la fin de la visite, vous aurez peut-être manqué des informations parce que du coup, il y avait trop de bruit. Mais si vous avez des choses à dire, des remarques, des questions, il ne faut surtout pas hésiter, c'est un petit peu le moment où vous pouvez les poser. D'accord ? Ça vous va ?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le cabinet de curiosité ?
Oui.
Oui ?
C'est pas là-bas.
Alors si, c'est là-bas, t'as raison. Donc je vous propose qu'on y aille, c'est effectivement juste par ici. Et vous allez voir, c'est une pièce un petit peu spéciale.
Pause musicale dans l'émission du musée au micro des 5e 1 du collège Labinquenay à Rennes. On écoute Quand Claude Do It sur Canal B. Do It sur Canal B. Retour avec les 5e 1 du collège Labinquenay et leur émission du musée au micro.
Alors, ce que je vous propose pour cette salle, on va déambuler un petit peu dedans. Vous allez bien observer ce qu'on voit dans cette salle et on va aller tout au fond et on va discuter un petit peu de ce qu'on voit dans cette salle et pourquoi on appelle ça un cabinet de curiosité.
Parce qu'il y a beaucoup de choses.
Alors non, c'est pas interdit.
Ça m'a fait peur en premier.
Ouais. Ah moi j'aime pas trop les trucs de l'époque comme ça.
C'est un thème chinois ça.
C'est écrit là, ouais.
Si tu veux les infos, tu les as juste.
La tour de Nankin.
On l'a construit ou
Si vous voulez, on pourra en parler.
D'accord.
Du coup, je vous propose, une fois que vous êtes ici, vous pouvez tous vous asseoir. On va tous s'asseoir.
T'as les instructions là. Ah,
mais par ici un peu, vous savez la plage. Mais par là, s'il vous plaît. Et on va juste par la
place.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ça intéresse parce que la porte était fermée. Non, c'est juste que quand il n'y a pas assez de monde qui surveille les salles, eh ben, on ne peut pas toutes les ouvrir, donc parfois on ferme certaines salles. Mais on a tout à fait le droit d'être ici. Du coup, on est dans ce qu'on appelle le cabinet de curiosité. Déjà, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Et puis, qu'est-ce que vous avez pu voir quand on s'est un petit peu baladé dedans? Oui.
Bah moi, j'ai vu il y avait deux trous et à l'intérieur, on pouvait voir plein de personnes dans des lits.
Ah oui, il y a des petites figurines, c'est vrai, dans ces deux petits trous.
J'ai vu des sculptures et j'ai vu des katanas.
Des sculptures, des katanas, oui.
Bah aussi, bah, j'ai vu deux fois la même sculpture.
Deux fois la même sculpture.
Mais genre identique.
Ok, ouais.
Et j'ai vu des figurines,
Les figurines, elles bougeaient.
Je vous jure, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Les têtes là trop longues.
Oui. Oui, vas-y, c'est toi.
J'ai vu une grande chaussure.
Une grande chaussure, oui. Ça, j'ai vu, il y en a plusieurs qui sont arrêtés devant. Oui, vas-y.
J'ai vu des flèches.
Des flèches, katana, oui.
Des boucliers.
Oui.
Des
ouais, pistolets. Oui.
J'ai vu une table d'échecs.
Oui, une table, ça fait penser aux échecs, c'est vrai. Oui. Un harpon. Oui. Un pilon.
Oui. Et en ce moment, je vois beaucoup de tableaux.
Oh, tu vois beaucoup de tableaux, c'est vrai. On oublie souvent ce qu'on a devant les yeux, mais c'est vrai qu'on a des tableaux. Oui. Comment ? Alors, il y a une boussole là-haut, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez tous un peu levé la tête aussi. Alors oui, en fait, dans cette pièce, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'objets et d'œuvres très, très différentes. Et puis, bah, au niveau des pays, est-ce que ça vous a évoqué des régions du monde, tous ces objets ? Japon, Chine. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous sont mis en tête ?
Je sais pas, mais un truc comme ça, ça, dans ma tête, c'est comme l'Espagne.
C'est comme l'Espagne ?
Moi, c'est la France.
La France ? Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une tête de momie. On pourra repasser un petit peu tout à l'heure.
C'est une vraie tête.
Oui, c'est une vraie tête de momie. Et ça peut faire penser un petit peu à l'Égypte. Non, je vous expliquerai après. Mais du coup, en fait, cette pièce, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres très différentes qui évoquent des pays tous très différents. Et puis, surtout, dans cette pièce, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais on a l'impression qu'il y a énormément de choses. Dans les vitrines, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont très proches les uns des autres. Et je vous ai dit, cette pièce, on appelle ça un cabinet de curiosité. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est un cabinet de curiosité? Comment on peut le définir, peut-être?
On peut voir.
Mais non, ça nous pose des questions.
C'est pour un peu découvrir l'art du monde.
En fait, ici, on est un petit peu dans l'ancêtre du musée des Beaux-Arts. Avant qu'il y ait des musées des Beaux-Arts, eh bien, en fait, chez des personnes, il y avait ce genre de pièces. On appelait ça des cabinets de curiosité. Et en fait, dedans, il y avait des objets qui venaient de partout dans le monde. Et à votre avis, c'est des collections. Ces collections-là, elles étaient faites par des personnes assez élevées dans la société ou ça pouvait être tout le monde ?
Tout le monde.
Assez élevé ?
Ça coûte cher.
Oui, ça coûte très cher. En fait, ces collections-là, elles étaient faites par les plus puissants, les rois, les princes. Ils avaient ça chez eux, dans leur grande et belle maison, demeure. Et en fait, pour eux, c'était un moyen, on a dit de montrer, tu as dit de faire voir. Pour eux, c'était un outil très important, parce que quand on est prince, quand on est roi, on a envie d'impressionner tout le monde, de montrer à tout le monde qu'on est riche, qu'on connaît beaucoup de choses. Et donc, en montrant que chez soi, on a des objets qui viennent de partout dans le monde, qui sont très rares, on impressionne les gens. On leur montre que nous, on est vraiment très forts, très riches et très intelligents.
Comme chez moi.
Et la collection qu'on voit ici, elle a été faite par un homme, il s'appelle Christophe Paul de Robien. Alors c'est pas lui, il est juste là-bas. Alors pourquoi ils ont tous des perruques? Ça vous évoque quelle époque ça?
Année 1900.
Oui. Les temps modernes.
Les temps modernes, est-ce que vous avez un peu plus précis?
Moyen Âge.
Peut-être un siècle. 1700. Charlemagne. Alors Charlemagne, il n'y avait pas des perruques comme ça. Alors là, on est plutôt au 18e siècle, donc dans les années 1700. Et lui, il avait un hôtel particulier à Rennes, donc il vivait à Rennes au 18e siècle. Et dans son hôtel particulier, il avait cette collection-là. Et il travaillait au Parlement. Je ne sais pas si vous avez déjà été place du Parlement à Rennes.
Parlement de Bretagne.
Exactement. Lui, il travaillait là-bas. C'était un personnage très important dans la ville. Et pour impressionner tous ses amis, tous ses proches, il avait ça chez lui et il leur faisait visiter.
C'est pour ça que ça s'appelle un...
Alors, curiosité, ça vient du fait que il fallait avoir beaucoup de curiosité, en fait, pour chercher ces objets. Il fallait avoir envie de découvrir, d'apprendre beaucoup de choses.
Par exemple, cette tour, on la pose ici. On ne sait pas si ça vient d'où, on ne sait pas.
Alors, si, je peux vous expliquer si vous voulez après. Mais je voulais vous demander, est-ce que ce qu'on déjà était dans le musée, est-ce que le musée il ressemble à ça, à l'étage ?
Non.
Non ?
Il est plus grand.
Il est plus grand, oui.
Il est plus blanc. Il y a les œuvres sont plus espacées.
Oui, les œuvres elles sont plus espacées. Et puis juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas entendu. Il y a un miroir.
Il y a un livre.
Il y a un livre, oui. Et puis je ne sais pas si vous voyez, il y a une cheminée. Et puis nous, on est assis là sur un très beau parquet. On dit que c'est un parquet Versailles. Parce que c'est le parquet qu'il y a aussi au château de Versailles. C'est un parquet dans ce style-là. C'est parce que c'est du parquet. Et ici, en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un musée. On a plutôt l'impression d'être dans une belle demeure, dans un beau château. Et du coup, juste pour finir sur un peu l'ambiance bizarre, en fait, le musée, quand il a créé cette pièce, il a voulu montrer un peu son histoire. Je vous ai dit, avant qu'il y ait le musée, il y avait ce cabinet-là. Donc, on a décidé de donner l'impression qu'on était chez Christophe-Paul de Rovien et qu'on visitait sa collection au XVIIIe siècle. C'est pour ça que la lumière, elle est un petit peu sombre, vous voyez, on ne voit pas très bien. Qu'il y a des meubles aussi, vous ne m'avez pas dit, mais on a des meubles comme chez quelqu'un. On a une cheminée. Ici, on a l'impression qu'on visite vraiment une collection du XVIIIe siècle. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, il y avait une grande chaussure. En fait, dans l'inventaire, elle est mise chaussure de géant. Parce qu'en fait, on était au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait encore des croyances. On pensait un petit peu à des choses un peu magiques, extraordinaires. Donc, par exemple, dans certains cabinets de curiosité, on avait des cornes de licorne. Et puis nous, on a une chaussure de géant. Alors en fait, elle vient, je crois, de Chine, celle-ci. Et en fait, c'est juste une très grande chaussure. Alors, c'était ça appartenait à des... Ça provenait de Narval. Mais l'idée, vous voyez, c'était quand on recevait des visiteurs, on leur disait, vous voyez, moi j'ai une chaussure de géant. C'était pour impressionner, en fait. Du coup, là, je vous ai dit, on est dans l'ancêtre du musée, mais à votre avis, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que le musée a été créé ? Est-ce que vous avez une idée de quel événement très important dans l'histoire de France aurait pu entraîner... Oui.
Ah bon ?
Est-ce que vous avez tous entendu ?
Oui, madame.
C'est que vous n'écoutiez pas. Ouais. En fait, les musées, les cabinets de curiosité ont existé, puis il y a eu la Révolution. Et à la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait ?
Ils ont coupé la tête.
Ils ont coupé la tête de qui ?
Du roi.
En fait, pendant la Révolution... Oui, vas-y. Parce qu'il donnait pas assez de pain. En fait, la Révolution, c'était contre qui ?
C'était les rois.
Les rois, la monarchie. Oui.
Ils ont
perdu
mais il y a des gens qui leur donnaient à trouver des pièces.
Exactement, oui. En fait, à la Révolution, on décide que c'est injuste que ce soit quelques personnes qui aient tous les pouvoirs, tous les privilèges. Et du coup, on se dit qu'il faut que ce soit plus juste et équitable entre tout le monde. Et c'est le même principe pour les œuvres d'art. En fait, je vous ai dit, c'est les riches, les princes, les rois qui ont les œuvres d'art. Et à la Révolution, on se dit que ça, c'est très injuste. Donc, on décide de leur saisir, de leur prendre les œuvres et de créer des musées pour que tous les Français puissent voir les œuvres. Et vous voyez, c'est encore le cas aujourd'hui. On a des musées et tous les Français peuvent rentrer dans le musée pour voir des œuvres. Elles appartiennent à tout le monde, elles n'appartiennent pas à quelqu'un en particulier. Oui ?
Si on fait une œuvre d'art, est-ce qu'on pourrait déposer dans le musée ?
Alors, si vous faites une œuvre d'art, il va falloir vraiment vous révolutionner l'histoire de l'art. Vous attendiez un petit peu et vous pourrez peut-être être dans le musée.
Radio Curieuse.
Je vais vous proposer qu'on monte et puis je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre et qu'on se questionne au final pourquoi est-ce que ce tableau c'est un chef-d'œuvre et pourquoi les autres c'en est pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a que quelques chefs-d'œuvre et que toutes les œuvres c'est pas des chefs-d'œuvre, qu'on s'interroge un petit peu sur ça. Alors je vous propose qu'on aille au premier étage du musée. Alors je vous laisse tous venir plus vers moi s'il vous plaît. Surtout vous voyez, il y a un groupe qui fait pas mal de bruit. Donc si vous voulez bien m'entendre, on dit qu'il y a des collections permanentes, c'est ce qu'il y a à l'étage, et puis qu'il y a des expositions temporaires. Par exemple, on a eu une exposition sur la fête.
Ah, elle était trop bien.
Voilà, vous étiez peut-être déjà venu. Exactement. Ces œuvres-là, par exemple, vous voyez les sacs que vous avez vus ou les œuvres qu'on a juste derrière, eh ben, elles n'appartiennent pas au musée, mais on les accueille pour quelques mois pour vous les montrer. Et puis après, ça va changer de thème. Quand vous reviendrez en janvier, ça sera une autre exposition. Là, je vous propose, on va suivre un petit peu le parcours chronologique. En fait, au musée, les œuvres dans le parcours, on commence par les plus anciennes et on finit par les plus récentes. Donc les œuvres les plus anciennes au musée, elles datent du Moyen-Âge, des années 1300. Et les plus récentes, elles vont dater d'environ 2022. Donc vous voyez là, pendant la balade, on va passer devant des œuvres qui s'écoulent sur plus de 700 ans. Donc on va voir que les styles, les artistes, bah, au fur et à mesure du temps, ça a changé. Ils ne font pas la même chose. Pour commencer, on va parler d'une œuvre qui est juste ici. Donc je vous laisse avancer un tout petit peu.
Une œuvre.
Le musée a été créé en 1801.
Oui, exactement.
Mais est-ce qu'il a lu, frère ?
Bah, c'est bien parce que c'est fait pour être lu.
Ah ouais, c'est vraiment qu'il y a vraiment de la lumière.
C'est beau, hein ? Et quand tu t'approches et que tu vois le détail du bébé.
Plus c'est craquelé.
Ah bah oui, ça c'est la peinture qui est vieille. Mais t'as vu le détail du bébé ?
Avec les petites lumières.
Ouais. Sur le nez. Sur le
front. Ouais. C'est tellement réaliste. Hein. Et vraiment toute l'attention.
Sur le bébé, sur ouais.
Alors ce tableau, il va faire 3 mètres par 5 mètres 40. Et quelqu'un m'a demandé bah, comment il pouvait faire des aussi grands tableaux à votre avis ?
Combien de temps il a fait ?
Ah, des échelles, est-ce que ça serait vraiment pratique, une échelle ?
Il l'a mis par terre et...
Là, il est coupé comme ça, là ?
Alors, parfois, quand il y a des travaux devant les bâtiments, on voit c'est des très grandes échelles sur plusieurs niveaux. Est-ce que vous savez comment on appelle ça ?
Une nacelle.
Alors, à l'époque, tu penses qu'ils avaient des nacelles ? Des échafaudages. Du coup, pour faire un tableau d'une aussi grande taille, et ben, souvent, on utilisait soit des échelles, soit des échafaudages, en fait. Et moi, je voulais qu'on parle un petit peu de statue et de celle-ci. Parce qu'en fait, elle est arrivée au musée il y a un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, le musée, c'est une œuvre que le musée a achetée. Mais le musée, à votre avis, est-ce qu'il a les moyens d'acheter tout le temps des œuvres comme ça ? Donc, comment il peut faire pour acquérir des œuvres sans vraiment les payer ? Alors oui, on peut avoir des dons, c'est vrai. En fait, si vous voulez savoir comment le musée a eu une œuvre, vous pouvez regarder sur les cartels. Et à chaque fois, en bas, normalement, vous avez marqué « don », par exemple, de l'artiste. Mais pour celle-ci, ce n'est pas un don. En fait, parfois, les œuvres... Oui, tu as une idée ?
Elle dit non.
Alors, on ne peut pas louer des œuvres. Ça serait sympa, mais on ne peut pas louer des œuvres. En fait, parfois, on appelle ça du mécénat. Est-ce que vous savez ce que c'est le mécénat ?
Non.
En fait, le mécénat, ça va être quand c'est une entreprise qui, elle, a beaucoup d'argent, qui veut aider le musée à acheter une œuvre. Donc en fait, ils vont donner de l'argent pour que le musée puisse acheter cette œuvre. Ici, c'est une entreprise bretonne qui a acheté l'œuvre pour le musée. Oui. Alors, c'est pas une entreprise très connue, c'est Norac. Vous voyez les crêpes Waouh ?
Ouais.
Eh bien, c'est eux qui ont les crêpes Waouh.
Mais quel rapport entre les crêpes Waouh et Norac ?
Bah, c'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent. En fait, souvent, ceux qui aident à acheter les œuvres, ils ne sont pas forcément dans le domaine de la culture. Ça peut être des gens de plein de domaines différents, mais qui ont à cœur d'aider des musées, par exemple. Et du coup, ils vont décider d'acheter, par exemple, une œuvre. Et puis, si vous observez, vous pouvez me dire qui c'est qui est représenté ?
Ça ?
Ouais.
J'allais dire Charlemagne, mais...
Ah, je sais que vous aimez beaucoup Charlemagne, je l'aime aussi beaucoup. Mais... Alors, ça ressemble à César, on verra pourquoi.
Oui.
Mais c'est... Alors, Louis, est-ce que vous avez
Louis
un numéro ?
Oui.
Louis XVI ou XIV, de toute façon, on confond toujours les deux.
Non, c'est XIV.
XIV ?
XIV.
Alors, Louis XIV, il est appelé comment ?
Le roi de Louis.
Est-ce que vous voyez les petits soleils ?
Non, c'est... Mais
si.
Ah, mais...
Bah non.
Si.
Bah si.
Si, c'est votre soleil.
Donc, si on a des petits soleils, il y a de fortes chances que ce soit Louis XIV.
J'ai raison.
Donc là, effectivement, c'est une statue de Louis XIV. Mais j'ai entendu, je crois que c'est toi qui as dit, on dirait César. Pourquoi est-ce qu'on dirait César ?
parce que il a l'air. Il a une cape, ça.
Ouais.
Il a de l'allure.
Il a de l'allure, de la présence.
Il est sur un cheval.
Il est sur un cheval.
Il est stylé, quoi.
Et puis au niveau. Il a des vêtements gaulois. Alors, est-ce que vous avez tous entendu ce que votre camarade elle a dit? Elle a dit en fait c'est Louis XIV, mais c'est vrai qu'il fait un peu penser à Jules César. En fait, c'est sa tenue. C'est vrai que à l'époque de Louis XIV, c'est quand déjà?
1700.
Je vais éviter le Moyen-Âge que j'ai entendu. 1700, on a Louis XIV. Et la mode à l'époque de Louis XIV, bah, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il habille en empereur romain. Parce qu'en fait, pour les rois, se montrer en lien avec l'Empire romain, c'est très prestigieux. En fait, l'Empire romain, vous le savez sans doute, c'est un empire bah, très glorieux, qui a une histoire très grande. Et donc, pour un roi, montrer qu'il est un peu comme un empereur, c'est montrer qu'il est très puissant. Et que, bah, à travers le temps, son pouvoir, il reste. Vous savez, il y a la formule, quand un roi meurt, on dit « le roi est mort ». Est-ce que vous avez la suite ?
Vive le roi.
Et bien en fait, c'est pour montrer que les rois, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter avec le temps. C'est vraiment quelque chose, même si le roi meurt, et bien il y aura toujours un autre roi. Et bien là, c'est de montrer que son pouvoir, il est intemporel. Il ne s'arrête pas avec le temps. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Alors, est-ce que vous avez une idée en quelle matière c'est fait? Alors, cuivre, t'es pas très loin. Alors, marbre, en fait, c'est de la pierre. Là, on est plutôt avec du métal.
Je voulais dire fer.
Alors c'est pas du fer.
Non, c'est pas du fer.
Alors là c'est une statue en bronze.
C'est du bronze. C'est moi le plus proche.
Et en fait cette statue, c'est la version plus petite d'une grande statue qu'il y avait à la place du Parlement à Rennes. Est-ce que vous voyez tous cette place?
Non.
Non. Alors je peux vous montrer une photo. C'est cette place-là à Rennes.
Ah, si je passe.
Ah, si je t'ai fait une à côté de
là.
Et en fait, est-ce que ceux qui ont déjà été sur cette place, est-ce que vous avez déjà vu une statue comme ça?
Non.
Non, là, il n'y a plus de statue. En fait, si vous voulez, à l'époque de Louis XIV, les habitants de Rennes ont décidé d'offrir une statue au roi qui le représente. Pour lui plaire, en fait, qu'il aime bien après Rennes, la ville, qu'il soit gentil avec la ville. Et du coup, le roi, il a bien accepté, et il y a eu une statue comme ça, qui a été mise place du Parlement à Rennes. Sauf qu'à la Révolution, on a décidé de détruire la statue qu'il y avait, parce qu'à la Révolution, on a dit tout à l'heure, on n'aimait pas les rois, on voulait que ça s'arrête. Donc on a détruit la statue, mais ça, on a de la chance, c'est une version plus petite, que quelqu'un de l'époque a commandé parce qu'il voulait avoir une belle statue de Louis XIV chez lui. Donc ça nous permet de voir un petit peu à quoi elle ressemblait. Donc en fait, la statue originelle, elle faisait environ 4-5 mètres de haut.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission du musée au micro des 5e 1 du collège Labinckney. On écoute Dominique A, Le courage des oiseaux.
Fini mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les ondes aimées perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, c'est ce qui n'est pas sans tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tournait-on le contre mon dos? Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos coups. parfois qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être qu'ils ne sont nous pas nous laisser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Le courage des oiseaux, Dominique A sur Canal B. On va retrouver les élèves de 5e 1 du collège Labinquenay pour leur émission du musée au micro.
Canal B, radio curieuse.
Et pour finir, je vous propose qu'on aille voir les œuvres qui bougeaient et qui clignotaient. Mais du coup, pour qu'on aille les voir, je voudrais juste vous rappeler, là on va aller dans un couloir qui est assez étroit. Et je sais que c'est des œuvres qui bougent, ça donne très envie de toucher, de s'approcher. Mais je vais vous demander de bien rester au milieu du couloir et de faire très attention, parce que je vous ai dit, ces œuvres, elles étaient en réserve parce qu'elles étaient abîmées. Elles ont été restaurées, donc l'idée, c'est pas qu'on les abîme à nouveau et qu'on soit obligé de les enlever. J'ai des photos qui ont été faites pendant la restauration qui vont vous montrer l'intérieur des œuvres. Donc du coup, on va bien s'installer et on va essayer de se mettre de façon à ce que vous voyez tous les images. Donc je vous laisse me suivre. En fait, ces œuvres-là, elles datent des années 1950-1960. Et c'est le moment où, en fait, on commence à étudier aussi le cerveau, à essayer de comprendre comment le cerveau, il fonctionne. Et il y a des artistes qui vont vouloir montrer, produire des œuvres qui bougent. Le mouvement, il peut être soit, vous voyez, engendré par un moteur. Il y a aussi des œuvres où ça va être nous, par notre mouvement. Par exemple, vous voyez celle-ci, c'est notre mouvement à nous qui l'a fait bouger. Et on n'en a pas, mais il y a aussi des œuvres à manipuler. Donc ça peut être l'action d'une personne qui entraîne un mouvement. Et ces œuvres-là, je vous ai dit, il y a des moteurs, donc c'est très fragile. C'est pour ça qu'elles ont été restaurées et qu'elles n'étaient pas exposées. Et j'ai des images de leur restauration. Par exemple, celle-ci, quand elle fonctionne derrière.
Des meufs chelous. C'est comme
ça. Ah, ça peut faire penser un peu aux boîtes à musique.
Machine à écrire.
Machine à écrire, ouais. Et par exemple, et par exemple, juste derrière, tous les, c'est comme ça pour les lumières pour que ça fonctionne.
Moi, je croyais qu'il y a lui là. Oui.
Exactement. Et puis par exemple, celle avec les petits ballons. Je peux vous montrer. Derrière, c'est comme ça, celle avec le petit ballon là-bas. Et ces œuvres-là, en fait, elles ne sont pas allumées toute la journée. Elles sont allumées, ouais, c'est marqué là. Elles sont allumées que 1h le matin et 3h l'après-midi pour éviter de fatiguer les moteurs. Et il y a des œuvres, vous voyez, c'est proche de l'illusion d'optique, par exemple, celle qui est en face de moi. Ben, en fait, ça peut vite vous faire mal aux yeux, tout comme celle-ci.
Non, ouais, c'est
oui, celle-là, là. C'est comme les rayures à la télé. C'est pareil, t'as raison. Ouais.
Moi, c'est sur mon tel qu'il y a les rayures. Moi, c'est sur mon tel qu'il y a les rayures.
Ah. Mais tu regarderas sur certains écrans, ça dépend de la façon dont tu vas habiller les gens. Parfois, ça te fait mal aux yeux, les rayures.
Là, en fait, les artistes, vous voyez, c'est des œuvres qui sont assez récentes. En fait, elles ont à peu près 70 ans. Il y en a qui ont un peu moins. Et en fait, les artistes, plus ils travaillent, on va dire récemment, plus ils cherchent aussi à donner un rôle aux visiteurs. Par exemple, je vous disais, il y a des œuvres, c'est en passant devant qu'elles vont s'activer, qu'elles vont marcher. Donc l'artiste, il va vraiment réfléchir à donner un rôle aux visiteurs. Donc on est un petit peu inclus dans ces œuvres-là, on a un rôle à jouer. Sans notre présence, bah, l'œuvre, elle ne marche pas vraiment. Est-ce que vous aimez bien ce genre d'œuvre-là ?
Oui,
ouais. Ça te stresse ? Alors moi, cette scène fait penser à du pop-corn qui éclate. Alors en fait, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé est-ce qu'on peut acheter un tableau du musée, à votre avis ?
Non. Oui, potentiel.
Alors non. En fait, au tout début, je vous ai dit, quand les musées ont été créés, l'idée c'était que, par exemple ce tableau-là, il appartient qu'à une seule personne. En fait, quand un tableau est dans un musée public, comme c'est le cas aujourd'hui, et bien en fait, logiquement, il appartient à tous les Français. Et en fait, pour que tout le monde puisse continuer à le voir, un tableau dans un musée, ben, on ne peut pas l'acheter. Voilà, il appartient un petit peu à tout le monde ici. Et donc le musée, il n'a pas le droit de vendre ses œuvres. On dit que c'est inaliénable, c'est-à-dire que ça ne peut pas être vendu. Donc en fait, on ne peut pas vraiment donner de prix, parce que bah, le but, c'est pas que ce soit vendu. On a un peu des estimations qui sont faites pour les assurances, mais ces estimations, elles ne veulent pas vraiment dire quelque chose.
Ouais. On peut acheter le musée ?
Alors non, c'est pas possible d'acheter le musée. Le musée, il appartient à l'État, il appartient encore une fois à tout le monde. En fait, dans un musée, dans la définition qui est donnée d'un musée, il y a marqué que c'est un lieu à but non lucratif. En fait, ça veut dire que le but du musée, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de gagner de l'argent. Par exemple, si vous voyez le musée, il est gratuit, parce que son but, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est juste de conserver des œuvres et que les gens puissent les voir.
Ah, c'est gratuit ?
Ouais. Vous pouvez venir au musée, tout est gratuit.
Oh. Et pour les adultes, quoi ?
Alors pour les adultes, tout ce qui est permanent, c'est gratuit. Ah non, c'est gratuit pour tout le monde. Même si je ne vous connais pas, et ben c'est gratuit. Ah oui, en fait, c'est très compliqué, c'est une bonne question. C'est très compliqué un peu de trouver des tableaux, parce qu'en fait, bah, les tableaux, maintenant, ils appartiennent un peu à tous les musées. Donc en fait, notre seul moyen d'avoir un peu des nouveaux tableaux, bah, c'est d'acheter des tableaux qui appartenaient à des personnes, à des personnes privées en fait. Par exemple, si quelqu'un avait chez lui ce tableau-là et qu'il décide de le vendre, bah nous on peut l'acheter. Mais on ne peut pas acheter un tableau qui appartient à un autre musée. On peut se les prêter, mais on ne peut pas les acheter.
On peut se les échanger.
Oui, alors on peut faire des échanges, mais en fait, par exemple, ici actuellement, on a des tableaux qui viennent du musée des Beaux-Arts de Reims. Ils font des travaux, ils nous ont prêté leur tableau. Mais si, en fait, le tableau leur appartient toujours. Nous, il est un petit peu ici en location, on va dire. Mais du coup, on peut pas faire ce qu'on veut avec, il leur appartient. Et en fait, le 26 janvier, ça va être une visite un petit peu spéciale. Là, vous voyez, vous avez fait la visite que tout le monde peut faire. Quand on vient au musée, tous les visiteurs peuvent voir les œuvres. Vous, le 26 janvier, vous allez pouvoir voir des choses que normalement, on n'a pas le droit de voir. Oui. Vous allez pouvoir aller dans une réserve. Donc une réserve, vous allez voir bah, comment sont stockées les œuvres. Vous allez pouvoir voir aussi qu'on stocke des œuvres qui sont abîmées. Et puis, vous allez pouvoir aussi voir comment on accroche les œuvres. Il va y avoir une nouvelle exposition en bas. On va pouvoir normalement visiter et voir bah, comment est-ce qu'on accroche des œuvres, comment ça se passe.
Oui, bah voilà, c'est ce que je voulais
demander. Et moi, pour d'ici le 26 janvier, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu si vous avez des questions, parce que vous allez aussi rencontrer d'autres membres du musée. Donc moi ici, vous vous souvenez de mon métier ?
Vous accueillez les gens,
là ? J'accueille les gens.
Non, mais je présente
les œuvres. Alors, je suis pas présentatrice, je fais pas le journal de 20h encore. Ouais. Je suis médiatrice. Moi, je fais les visites. Mais en fait, dans un musée, il y a beaucoup, beaucoup d'autres métiers. Est-ce que vous connaissez des métiers qu'il y a ici au musée ?
Conservateur.
Conservateur, ouais.
Pardon ?
Conservateur, il fait quoi un conservateur ?
Il conserve les tableaux.
Ouais. Lui, il gère vraiment un petit peu toutes les œuvres du musée. Alors, chaque conservateur a un peu sa période. Vous allez rencontrer le conservateur qui s'occupe des œuvres les plus anciennes du musée.
Pour finir, on va écouter l'interview de l'un des conservateurs, Guillaume Caseroni.
Alors, nous sommes des élèves du collège de la Bocnère. Donc avec moi, je m'appelle Nora, il y a Camille et Yanni. Et du coup, nous allons vous poser quelques questions au sujet de votre métier.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Alors moi, je suis Guillaume Caseroni, je suis le conservateur des collections d'art ancien des musées pour les peintures et les dessins.
Depuis combien de temps travaillez-vous au Musée des Beaux-Arts ?
Alors moi, je suis ici depuis janvier 2013, donc ça fait à peu près 11 ans que je suis là.
Quelles études faut-il faire pour devenir conservateur ?
Alors en fait, tout dépend, vous voulez devenir conservateur de quoi ? Parce qu'il y a des musées différents. Vous savez, ici, c'est un musée des Beaux-Arts. Donc pour travailler dans un musée des Beaux-Arts, il faut faire histoire de l'art. Par contre, si vous voulez aller par exemple au musée de Bretagne, là-bas c'est un musée d'histoire, il vaut mieux avoir fait histoire. Si vous voulez aller travailler à l'écomusée, bah là il vaut mieux connaître un peu l'histoire naturelle, les animaux, l'histoire de l'agriculture. Donc vous voyez, en fait ça dépend du musée.
Quelle qualité faut-il avoir pour faire ce métier ?
Alors en fait le métier il est intéressant parce qu'il demande des qualités différentes. Il faut à la fois savoir faire des recherches. La première qualité, c'est qu'il faut savoir faire des recherches et connaître bien son histoire de l'art. Ensuite, il faut savoir choisir des œuvres à acheter pour le musée. Donc pour ça, bien connaître le musée, savoir ce qui manque, savoir un peu où sont les tableaux qui sont à vendre, combien ça coûte, etc. Ensuite, il faut savoir disposer les tableaux dans le musée, parce que c'est moi qui choisis comment on accroche les tableaux dans les salles et qu'est-ce qu'on met dans les salles. Ensuite, il faut savoir écrire. Parce que les petits, vous avez vu les petits cartels avec les textes sur les tableaux, ça c'est moi qui les écris. Et puis j'écris aussi les livres sur la collection. Une partie des livres qui sont à la boutique, c'est moi qui les ai écrites. Ensuite, il faut savoir travailler avec une équipe. Si on compte tous les gens qui travaillent à différents niveaux, on peut être jusqu'à 100 personnes à travailler sur une exposition. Et la personne qui est en contact avec tout le monde simultanément, c'est le conservateur qui est le commissaire de l'exposition. Donc il va falloir un peu gérer tout, coordonner tout, et puis savoir ce qu'on va faire à la fois pour les prêts, pour le catalogue, pour la commande des photos, comment on organise la programmation culturelle, c'est-à-dire les visites guidées, les animations, les choses comme ça. En fait, c'est un métier qui est assez créatif, qui demande quand même d'avoir tout le temps des idées. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que chaque exposition est différente de la précédente, chaque œuvre est différente de l'autre œuvre, ce qui est normal, parce que c'est des gens différents qui les ont fait à différentes époques. Donc en fait, il n'y a rien de répétitif. Vous avez une méthode de travail, mais par contre, cette méthode, il faut l'adapter à un truc différent à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il y a un côté créatif. Il y a la partie dure de l'histoire, qui est dans les livres, ou qui est dans les archives, que vous ne pouvez pas changer. Et ensuite, il y a votre façon à vous de l'expliquer aux gens et de le mettre en scène.
Avez-vous travaillé dans d'autres musées auparavant ?
Oui, avant, moi j'ai travaillé au Louvre pendant 8 ans. Et vous savez, au Louvre, c'est très grand le Louvre. Il y a plusieurs musées dans le Louvre. Il y a un département entier que pour les tableaux, qui s'appelle le département des peintures. Et donc j'ai travaillé dans ce département-là pendant 8 ans. Pendant que je travaillais au Louvre, j'ai travaillé simultanément à la manufacture des Gobelins. La manufacture des Gobelins, ça a été créé par Louis XIV. Et depuis Louis XIV jusqu'à aujourd'hui, c'est une manufacture qui fait des tapisseries. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des tapisseries comme ça à la main, des tapisseries modernes, d'après de l'art contemporain d'aujourd'hui. Et donc j'étais leur prof d'histoire de l'art, aux jeunes qu'on formait. Et pendant 10 ans, j'étais là-bas, je donnais les cours d'histoire de l'art aux élèves qui venaient apprendre à tisser des tapisseries.
Avez-vous une anecdote rigolote à nous raconter ?
Alors, du coup, ce qui m'a le plus... Enfin, je vais vous raconter un truc comme ça au pif qui me vient un peu marrant. C'est, vous savez, les expositions, en fait, il y a toujours des œuvres un peu spectaculaires qu'on fait venir. Et il y a toujours la frayeur de savoir comment est-ce qu'on va les faire entrer dans le musée. Quand vous avez des trucs très, très gros. En 2017, j'avais fait une exposition de tableaux. C'était des tableaux qui faisaient 4 mètres de haut, des tableaux anciens, qui étaient au Québec. Et en fait, il y avait 40 tableaux entre 3 et 4 mètres de haut qu'on avait fait venir en avion de Québec. Et ça, c'était hyper, hyper drôle parce que c'est des énormes trucs. Les tableaux étaient tous dans des caisses en bois gigantesques pour ne pas s'abîmer. Il a fallu emmener ça en avion, après les charger dans un camion, dans des semi-remorques qui sont arrivés ici à 2h du matin. Il a fallu les rentrer par l'arrière du musée parce que les tableaux étaient trop grands pour passer par la porte qui est là. Qu'on a ouvert la façade arrière du musée, il y a une grosse porte. on les a rentrés par l'arrière. Après, il a fallu les déballer un par un sans tous les faire tomber pour les accrocher au mur. Ça, c'était très marrant. Hein.
Si une nouvelle personne prenait votre poste, quel conseil lui donneriez ?
Ah ! En fait, le conseil qu'il faut donner aux gens, c'est surtout dans un musée, il ne faut pas faire comme si c'était rien passé avant vous. Moi, je dois être le 20e conservateur qui s'occupe des peintures depuis que le musée existe. Il existe depuis 200 ans, le musée. Les autres ont tous fait un travail. Il faut toujours regarder ce que les gens avant vous ont fait. D'abord, pour éviter de refaire la même chose sans savoir que ça a déjà été fait. Et puis aussi pour respecter l'histoire du musée. L'histoire du musée, c'est une série de gens qui ont travaillé pendant, comme vous le voyez, des siècles pour que nous, on puisse encore avoir ces objets aujourd'hui. Parce que tous ces objets qui sont dans les musées sont fragiles. Ils ont été bichonnés, ils ont été achetés, ces objets, un par un. Donc voilà, c'est le principal conseil que je lui donnerai à la personne. C'est de d'abord regarder ce que les autres ont fait pour innover peut-être, mais pas jeter à la poubelle ce qui a été fait avant.
Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement ?
Ah, alors moi, ce que j'adore, c'est... moi, j'adore les œuvres d'art. Donc, je suis très content d'être au contact des œuvres d'art tout le temps. Et je crois que ce que je préfère dans mon métier, c'est la partie avec les étudiants. Ok ?
Merci.
Merci, monsieur. C'est très, très
intéressant. Notre émission est terminée. On espère qu'elle vous a plu.
Nous, on a voyagé avec ce projet. Ça nous a sorti de notre quotidien de collégiens et collégiennes.
Ça a enrichi nos connaissances.
Ça a changé ma vision du musée.
Ça m'a donné plus envie d'aller au musée des Beaux-Arts.
Ça nous a cultivés. Et puis, ce musée est gratuit, donc si on a un temps libre, on peut y aller quand on veut.
Ce projet nous a cultivés.
Il nous a fait apprendre les métiers du musée que nous ignorons.
J'ai aimé, sauf que je trouve qu'on a trop marché et j'ai mal aux pieds. En fait, moi, je me suis trouvée importante de voir quelque part où, en vrai, on n'avait pas le droit. Quelque part, on n'avait pas le droit.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tout ce que Marion nous a organisé au musée, d'aller voir notamment les réserves.
Oui,
les tableaux. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Hein.
Oui.
Et trop de chance. Mais c'est super de le remarquer et de le dire.
Oui, bah merci beaucoup. Hein.
Yanni,
ta fille.
Mohamed Ali.
Idriss.
Miyassé.
Anaël.
Axel.
Naël.
Kenzo.
Edgar.
Gershom.
Adèle.
Ayati.
Wassila.
Noura.
Mona.
Nora.
Camille.
Nil.
Ethan.
Oubaïdoula.
Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 29 juin à 10h sur cette même antenne pour écouter le second volet de l'émission Du musée au micro. Bon week-end.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Un peu. On userait de pleines amphores.